Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonjour à tous. C'est une ultime prise de parole avant le début des hostilités. Emmanuel Macron va s'exprimer à la télévision à 13h. Le président veut expliquer les enjeux du sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui à Biarritz. Plusieurs dossiers brûlants sont en effet sur la table, comme la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le Brexit ou encore la protection de l'environnement, avec en toile de fond le poumon vert de la planète qui brûle, les incendies en Amazonie qui ont provoqué un bras de fer diplomatique entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro. En marge du sommet, les anti-G7 aussi veulent se faire entendre. Nouvelle manifestation en ce moment même à Hendaï. Hier, 17 personnes ont été interpellées lors d'une première mobilisation. Et puis c'était il y a 75 ans, tout pile, le 24 août 1944, veille de la libération de Paris. Et cette histoire tombée dans les oubliettes, il n'était ni français ni américain, mais espagnol. Les soldats républicains furent les premiers dans les rues de la capitale. Avant le coup d'envoi du G7, Emmanuel Macron a donc décidé de s'adresser directement aux Français. Une intervention programmée dans une petite demi-heure, à 13h, une allocution à la radio et à la télévision, juste avant les premières rencontres entre chefs d'État. Car même si cela se passe en France, ce sommet peut sembler lointain pour beaucoup de Français. Emmanuel Macron va donc tenter de faire de la pédagogie, Rosalie Lafarge.
Les chefs d'État auront beau être coupés du monde ici à Biarritz, leurs éventuelles décisions peuvent changer le cours de nos vies. Voilà ce que veut dire Emmanuel Macron aux Français. Certes, on peut avoir l'impression d'un entre-soi, d'une série de réunions et de rencontres à huis clos dans un palace surprotégé et dans une ville transformée en camp retranché, bien loin de la société civile dont le groupe des sept se dit pourtant à l'écoute. Mais ce grand rendez-vous est stratégique, souligne-t-on à l'Élysée. Grâce à ces réunions à sept, ponctuées d'échanges bilatéraux, les dirigeants peuvent se mettre d'accord sur de grandes orientations. Cette année au programme, taxation des géants du numérique, relance de l'économie mondiale, guerre commerciale, nucléaire iranien et catastrophe écologique, avec en tête évidemment ces incendies en Amazonie. Et ces orientations, si elles sont traduites en action, peuvent avoir des répercussions sur notre quotidien. C'est ce que va tenter d'expliquer Emmanuel Macron aux Français dans cette allocution a priori courte. Elle ne devrait pas dépasser les 10 minutes.
Rosalie Lafarge. Et de son côté, Donald Trump est en passe d'arriver sur la côte basque. L'avion Air Force One du président américain vient de se poser à l'aéroport de Mérignac, près de Bordeaux. Quelques heures avant son départ pour le G7, le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois soufflé sur les braises de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. Il a également brandi la menace de taxer le vin français en représailles à la taxation des géants américains du numérique. Bonjour Bertrand Galichet. Bertrand Galichet, bonjour. Vous êtes en direct de Biarritz pour France Culture. On peut le dire, hein, Bertrand, c'est un Donald Trump plus déchaîné et imprévisible que jamais qui débarque au sommet du G7.
Oui, fidèle à lui-même, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid avant de poser le pied sur le sol français. Son avion entre Bordeaux et Biarritz doit atterrir ici dans une demi-heure, après avoir laissé entendre qu'il considérait les sommets internationaux comme une perte de temps. Il a finalement dit s'attendre à des discussions très productives à Biarritz, tout en jouant les provocations, menaçant de pénaliser lourdement les vins français en représailles à la taxe Macron sur les GAFA. Donald Tusk dit qu'il ne laissera pas faire sans réagir. La détermination des États-Unis à accentuer la guerre commerciale avec la Chine inquiète par ailleurs les autres participants au sommet. Et parmi les Européens qui accueillent pour la première fois Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, chacun se demande quel rôle jouera Donald Trump dans la forme que prendra le Brexit. Le président américain a déjà promis à la Grande-Bretagne une relation commerciale très privilégiée et immédiate en cas de Brexit sans accord. Autre inconnu, les États-Unis voudront-ils s'associer à une action du G7 pour lutter contre les incendies et la déforestation en Amazonie? À quelques heures de l'ouverture officielle du sommet de Biarritz, les débats s'annoncent plutôt sportifs.
Bertrand Galichet en direct de Biarritz pour France Culture. Et durant le sommet, on le disait donc, il n'y a pas que Donald Trump qui sera scruté de près. Bertrand Galichet en parlait, le nouveau Premier ministre britannique est lui très attendu sur le Brexit. Boris Johnson veut convaincre ses futurs ex-partenaires européens de lui céder sur certains points de l'accord de sortie. Et puis tous les regards, on le disait aussi, seront également tournés vers la forêt amazonienne ravagée par les flammes. Accusant le président brésilien d'inaction, Emmanuel Macron refuse désormais de signer le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Voilà qui provoque la colère de Jair Bolsonaro. On l'écoute.
Notre gouvernement n'a aucune tolérance vis-à-vis de la criminalité et cela vaut aussi pour l'environnement. Nous sommes en pleine saison chaude, sèche, avec des vents forts et malheureusement, chaque année, il y a des incendies en Amazonie. Et les années les plus chaudes, comme c'est le cas en 2019, il y en a encore plus. Il faut rester serein quand on parle de ce sujet et diffuser des données et messages erronés au Brésil ou à l'étranger ne contribue pas à résoudre le problème. Le Brésil est un exemple de respect de l'environnement. Nous continuons ouverts au dialogue respectueux et conscients de notre souveraineté.
Mais face à la pression internationale de plus en plus forte, Jair Bolsonaro a décidé tout de même d'agir et d'envoyer notamment l'armée pour lutter contre ces incendies incontrôlés. La protection de l'environnement, voilà l'un des chevaux de bataille des ONG et des anti-G7 rassemblés dans le Pays Basque. Une manifestation sous très haute sécurité a lieu en ce moment même sur le port de Hendaye. Bonjour Mathilde Dehémy.
Bonjour Hugo.
Vous êtes en direct du rassemblement où sont réunies des milliers de personnes dans une ambiance apparemment festive. Mathilde.
Oui, très festive. Les organisateurs l'avaient annoncé. Le cortège doit être familial, festif, pacifique. Il est en train d'arriver et d'avancer vers son point de dispersion, la frontière espagnole à Irún. Des organisateurs qui étaient satisfaits, des 6000 personnes qui ont participé aux 3 jours de conférences de ce contre-sommet du G7. Conférence notamment suivie par Evangeline. Elle est gilet jaune de la première heure. Elle a longuement occupé le rond-point de Fort Calquier, la patrie de Christophe Castaner. Evangeline, inspirée par les militants basques.
À titre personnel, j'en rêve et j'y travaille.
Expliquez-moi.
Je pense qu'on n'arrivera à faire bouger les choses que en union, avec nos différences, parfois même quelques divergences, mais l'union est indispensable si on veut arrêter tout ça. Donc je me bats pour la convergence de lutte.
Des gilets jaunes très présents, tout comme la centaine d'associations organisatrices de ce contre-sommet. Tous demandent une autre politique fiscale. Le CETA, le Mercosur ne servent que les gouvernements et les multinationales, disent-ils. Il faut travailler toujours sur les inégalités sociales, inégalités raciales aussi. Dans le cortège, beaucoup de militants s'inquiètent pour le climat. Pointent aussi l'ambiguïté d'un Emmanuel Macron, prompt à dénoncer les incendies en Amazonie comme David.
Si on continue comme ça, on y est quoi. Donc si pour l'éviter en fait, il va falloir changer les choses drastiquement, c'est-à-dire ne pas continuer comme avant, ne pas continuer comme on le fait maintenant, c'est-à-dire dans la consommation et puis dans la culture industrielle, qui est aussi la culture industrielle en France, en Europe, qui est aussi le vecteur de la déforestation et de la destruction de l'Amazonie.
L'urgence est là, dit David. Ne comptez pas sur les pyromanes, dit-il, du G7 pour changer le monde. Les altermondialistes et écologistes ont, eux, des idées, disent-ils, qui doivent se développer et perdurer au-delà de ce contre-sommet.
À Hendaye, Mathilde Dehémy avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Simon Cheng a donc retrouvé la liberté. L'employé chinois du consulat de Grande-Bretagne à Hong Kong avait été arrêté il y a 2 semaines pour avoir sollicité des prostituées, selon la presse chinoise. Une accusation montée de toutes pièces dénonce aujourd'hui ses proches. Cette arrestation avait enflammé un peu plus la situation à Hong Kong et aujourd'hui, des nouvelles mobilisations sont en cours. La police anti-émeute a chargé les manifestants pro-démocratie qui avaient érigé une barricade. Pendant des décennies, l'histoire les avait oubliés. Le rôle des républicains espagnols dans la libération de Paris est enfin pleinement reconnus, eux qui ont foulé en premier les rues pavées de la capitale le 24 août 1944. 75 ans après, une nouvelle fresque marque désormais leur fait d'armes. Elle sera inaugurée cet après-midi dans le 13e arrondissement. Cette œuvre rend hommage à la Nueve, cette compagnie de la 2e DB du général Leclerc sous le commandement d'Armado Granel, homme politique espagnol et héros de la France libre. Un hommage qui réjouit Ramon Pino, membre de l'association du 24 août 1944. Dans un entretien à retrouver sur franceculture.fr, notre journaliste Éric Chavroux lui a posé cette question. Les Parisiens connaissent-ils le rôle de la Nueve?
Je dirais qu'en majorité, non. On avait fait une espèce de radio-trottoir il y a 2 ans pour interroger les passants sur la libération de Paris. Et on s'est aperçu que il y en avait 9 sur 10 qui ignoraient la participation de républicains espagnols à la libération de Paris. Et pas que de républicains espagnols, d'ailleurs. Il y a eu, il faut le dire, des Belges, des Polonais, même des Allemands antifascistes qui étaient complètement clandestins en France. Mais il y a eu beaucoup d'étrangers. Et c'est le paradoxe avec ce fameux discours de Gaulle, juste après la libération de Paris, où il fait son fameux discours « Paris martyrisé, mais Paris libéré » par lui-même et par la France éternelle. Il ne parle même pas ni des Américains, ni des Anglais, ni de quoi que ce soit, mais quand on écoute le discours de Gaulle, la France a été libérée par les Français. Il y a eu des résistants français, mais il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont participé à la libération de la France.
Un mot de votre météo, chaud et ensoleillé aujourd'hui sur toute la France. Les températures vont de 23 degrés sur la pointe bretonne à 34 degrés pour Bordeaux, Nantes ou le centre de la France. Une édition préparée par M. Le Chili avec Alice Seyed à la réalisation.